Pas de problème pour les livraisons d'armes suisses vers le Qatar. Elles peuvent reprendre. Le SECO a levé l'interdiction décrétée en juillet dernier après les explications données par le Qatar. Pour eux, l'immoraire, la reprise de ces exportations n'écorne pas le principe de neutralité. La fermeture du détroit d'Ormuz, enjeu du bras de fer entre l'Iran et la communauté internationale, Téhéran menace, Washington parle de comportement intolérable et l'Union européenne réaffirme ses intentions de sanctions. Cette fois, ça pourrait être sérieux, dit un spécialiste du Moyen-Orient. Bientôt, plus besoin de faire son contrôle anti-pollution chez le garagiste, l'Office fédéral des routes réfléchit à la suppression de ces contrôles. De la neige demain sur les Préalpes et les Alpes, avec des éclaircies dans les autres régions. Il fera moins 1 degré demain à l'aube et près de 3 degrés au maximum l'après-midi. Bulletin complet de Météo Suisse en fin de journal. Les livraisons d'armes suisses vers le Qatar peuvent reprendre. Le SECO, le secrétariat d'État à l'économie, a levé l'interdiction décrétée en juillet dernier. Des munitions suisses avaient été retrouvées en Libye. Le Qatar les avait livrées sans autorisation aux insurgés. Or, depuis, le Qatar s'est excusé. Le SECO a mené des contrôles sur place. Il se dit aujourd'hui convaincu que ce genre d'incident appartient au passé. Une position partagée par le ministre de la Défense, Ueli Maurer, pour qui la reprise de ses exportations n'entre pas en conflit avec la neutralité.
C'est une question de l'armement. En principe, je pense on peut faire ça. Nous sommes très prudents et chaque fois, on fait des expertises et on dit après vous, oui ou non. Et je pense si on n'a pas des armes pour une attaque, c'est toujours possible parce que les armes sont tout d'abord là pour la protection de la population.
Mais on a vu des munitions suisses, notamment en Libye, c'était quand même la démonstration que le système ne fonctionne pas.
Oui, oui, ça il faut corriger. Mais je pense que notre politique est très restrictive. Si on compare ça avec l'Allemagne par exemple, nous sommes sur le côté de la sécurité toujours.
Ueli Maurer interrogé par Christian Favre. De son côté, le GSSA, le groupement pour une Suisse sans armée, s'insurge contre la levée par le SECO, le secrétariat à l'économie, donc, de l'interdiction d'exporter du matériel de guerre vers le Qatar. Selon le GSSA, les explications du Qatar justifiant la livraison d'armes suisses à la Libye sont une farce. Le Qatar a invoqué une erreur logistique. Pour le GSSA, le SECO fait clairement comprendre aux pays importateurs de matériel de guerre qu'ils peuvent impunément violer les lois suisses, en l'occurrence celle qui interdit la réexportation d'armes importées. Les États-Unis ont mis en garde aujourd'hui contre une éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran qui a brandi cette menace en cas de sanctions contre ses exportations pétrolières. Un porte-parole du Pentagone a déclaré qu'aucune perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ne serait tolérée. De son côté, l'Union européenne a déclaré qu'elle ne renoncerait pas à de nouvelles sanctions contre l'Iran malgré la menace brandie aujourd'hui par Téhéran de fermer le détroit d'Ormuz en cas justement de nouvelles sanctions. Cet étroit passage entre le sultanat d'Oman et les côtes iraniennes voit passer 40% du trafic maritime pétrolier mondial, soit 20% de la totalité de la consommation pétrolière mondiale. L'Arabie saoudite, le Koweït ou encore l'Irak exportent une partie de leur or noir via ce détroit. Pour le politologue spécialiste du Moyen-Orient, Mohamed Reza Jalili, il ne faut pas sous-estimer la menace proférée par l'Iran.
Cette fois, je pense qu'il faut à la fois prendre ces menaces comme crédibles, puisque l'Iran a des capacités de nuisance très importantes, plus importantes que dans les années 80, là, des vedettes rapides, des mines flottantes, des missiles anti-navires, etc. Mais en même temps, je pense qu'un blocus du détroit, pour l'heure du moins, est improbable, parce que les Iraniens se rendent compte que c'est vraiment un casus belli. Cette menace existe, il faut la prendre au sérieux, mais il ne faut non plus pas tomber dans un catastrophisme exagéré.
Des propos recueillis en début de soirée dans Forum sur la première. En Syrie, des observateurs de la Ligue arabe ont circulé dans divers quartiers de Homs, épicentre des affrontements, pour voir si le régime respectait l'accord signé le 19 décembre visant à mettre fin à la répression sanglante. La Syrie a connu de nouvelles violences aujourd'hui. Des militants ont affirmé que dans le centre du pays, deux personnes avaient été tuées, dans le quartier notamment de Bab Amr à Homs et au moins 6 autres à Hama, où il y a aussi eu de nombreux blessés. La répression a fait plus de 5 000 morts depuis la mi-mars, selon l'ONU. Par ailleurs, toujours en Syrie, l'agence officielle Sana a annoncé la libération de plusieurs centaines de prisonniers. L'annonce de ces libérations intervient après les accusations de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, selon lesquelles les autorités syriennes ont dissimulé plusieurs centaines de détenus aux observateurs arrivés depuis peu sur le terrain. Des équipements mal conçus, des autorités ferroviaires incompétentes, telles sont les conclusions de l'enquête sur l'accident de TGV qui avait fait 40 morts et 200 blessés en juillet dans l'est de la Chine. Le Premier ministre chinois Wen Jiabao a dévoilé les résultats aujourd'hui et annoncé que 54 responsables seraient sanctionnés. Pékin, Alain Arnaud.
C'est le drame le plus commenté de l'année en Chine. Cette collision est devenue le symbole d'une société où l'on sacrifie la sécurité, la vie humaine sur l'autel d'un développement bien trop rapide. Après l'accident, les autorités avaient tout fait pour le passer sous silence. Mais les médias avaient désobéi aux ordres et les internautes avaient fait le reste. Ils avaient montré les images de ces wagons accidentés qu'on voulait enterrer pour dissimuler les preuves avant même de secourir les victimes emprisonnées. Un coup très dur pour le pouvoir qui cherche à vendre sa technologie ferroviaire dans le monde entier. Alors aujourd'hui, il promet des punitions sévères, dénonce l'erreur humaine et les problèmes de signalisation. Le matériel roulant n'est pas en cause. Les internautes, eux, sont 80% à rejeter les résultats de l'enquête. Ils soulignent que sur les trois principaux accusés, l'un était déjà mort et les deux autres avaient été limogés avant la collision. Et ils se disent dégoûtés. Alain Arnaud, Radio Suisse Romande, Pékin.
Le président égyptien déchu Hosni Moubarak est arrivé à bord d'une ambulance pour une nouvelle session de son procès au Caire. Celui-ci a repris après une coupure de 3 mois pour des raisons de procédure avant d'être ajourné au 2 janvier. L'ancien président, 83 ans, a été placé sur une civière à sa descente du véhicule pour être transporté dans la salle du tribunal comme lors des précédentes audiences. Par ailleurs, le mouvement des frères musulmans égyptiens a affirmé aujourd'hui qu'il voulait assurer la protection des églises pour le Noël copte, célébré début janvier, afin d'empêcher des attentats comme celui survenu il y a 1 an à la sortie d'une messe à Alexandrie. Plus de 20 personnes avaient été tuées fin décembre de l'an dernier à la sortie d'une messe de Nouvel An à Alexandrie dans un attentat qui n'a pas été revendiqué. Les Coptes ou chrétiens d'Égypte représentent 6 à 10% des quelques 82 millions d'Égyptiens et constituent la communauté chrétienne du Moyen-Orient la plus nombreuse. Le drapeau de l'ONU était en berne aujourd'hui au quartier général de l'organisation à New York, de même qu'à Genève, à l'occasion des funérailles du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il. En réaction, l'association UN Watch a dit admettre que l'ONU suivait un protocole diplomatique, mais que la journée d'aujourd'hui aurait plutôt dû être une occasion de montrer sa solidarité avec les millions de Nord-Coréens brutalisés par la politique sans pitié de Kim Jong-il. Les images diffusées par la télévision d'État nord-coréenne ont montré pendant 3 heures des centaines de milliers de civils et militaires pleurant, parfois avec hystérie, le dirigeant disparu. Il n'y aura sans doute bientôt plus besoin de passer chez son garagiste pour effectuer le contrôle anti-pollution bisannuel de son véhicule automobile. L'Office fédéral des routes réfléchit à la suppression de ces contrôles. Yves Terrani.
La disparition de ces contrôles est somme toute logique. Grâce à une sonde placée à l'arrière du catalyseur et qui analyse la qualité des émissions polluantes, l'électronique embarquée des voitures modernes signale en effet au conducteur tout dysfonctionnement dans le système d'échappement. Il y a lieu alors de passer chez son garagiste pour effectuer les réparations nécessaires. Les progrès réalisés, mais aussi les contrôles périodiques, les services ou encore les garanties longue durée rendent ainsi les tests anti-pollution inutiles. L'Office fédéral des routes travaille donc à leur suppression. Une décision en ce sens du Conseil fédéral est attendue pour fin 2012. Du côté du Touring Club Suisse, on se réjouit car c'est une mesure que le grand club automobiliste réclamait depuis longtemps. Quant au garagiste, il considère que la disparition de la manne perçue, jusqu'à 100 francs voire plus par contrôle anti-pollution, ne devrait pas mettre en péril leur entreprise, à en croire Jean-Philippe Fumeau, membre du comité de la section valaisanne de l'UPSA, l'Union professionnelle suisse de l'automobile.
L'autorité américaine de surveillance des marchés financiers, la FINRA, a condamné la banque suisse Crédit Suisse à une amende de 1 750 000 dollars, l'équivalent de 1 650 000 francs. Le numéro 2 bancaire helvétique n'a pas respecté les règles en matière de contrôle des ventes à découvert. Selon la FINRA, le système de surveillance de la banque a montré de sérieuses lacunes dans ce domaine de juin 2006 à décembre 2010. Crédit Suisse a confirmé le montant de l'amende et a déclaré qu'il était réjouissant que l'affaire puisse prendre fin. 23 initiatives populaires ont été lancées en 2011 en Suisse, record absolu. Jusque-là, c'était 1998, avec 19 initiatives qui venaient en tête. Les analystes voient là les effets d'une année électorale où les partis ont cherché à profiler leur plateforme et aussi de la catastrophe nucléaire de Fukushima ou encore de la crise de la dette européenne. Des nouvelles des indices boursiers, le Dow Jones a cédé 1,14% à 12 151 points. Le Nasdaq a reculé de 1,34% à 2 589 points. Le SMI a progressé de 0,14% à 5 895 points. Et puis en cette période de Noël, cette information sur une bagarre qui a éclaté aujourd'hui entre prêtres arméniens et grecs orthodoxes dans la basilique de la Nativité à Bethléem. On sait que les différentes communautés se partagent cet espace avec une rigueur implacable. Toute l'équipe était là, nettoyait son bout de basilique après la fête de Noël. Et voilà qu'un prêtre arménien a cru voir qu'un prêtre orthodoxe grec empiétait sur son territoire avec son balai. Immédiatement, le ton est monté, une bagarre s'en est suivie et ce sont des policiers palestiniens, si ça se trouve même musulmans, qui ont finalement séparé les prêtres. Les observateurs avisés s'interrogent évidemment sur les chances d'une future unité des chrétiens dans le monde. On prend des nouvelles du ciel avec Eric Fauchère.
Le ciel de la nuit sera couvert et des chutes de neige se produiront partout. Une perturbation touche nos régions et il faudra donc être prudent demain matin sur les routes. Les quantités seront faibles selon Météo Suisse et l'après-midi, elles se concentreront sur les Préalpes et les Alpes. Dans les autres régions, des éclaircies se produiront. Il fera moins 1 degré demain à l'aube et près de 3 au maximum l'après-midi. À 2000 mètres, un net refroidissement sera ressenti puisque nous ne dépasserons pas les moins 7 degrés. Cette perturbation en précède une autre qui s'annonce plus active pour vendredi. De la neige tombera partout et on attend en cumul près de 10 cm de neige fraîche en plaine tout au long de la journée, des quantités plus importantes encore en montagne. La neige nous occupera encore samedi, mais au-delà de 1000-1500 mètres, en dessous ce sera de la pluie. Dimanche s'annonce changeant avec quelques averses, des flocons au-delà de 1500 mètres.